n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez d'actualité en lien avec la philosophie et je vois devant vous le discours de Suède d'Albert Camus.
Et oui, exactement Adèle. Début octobre, on a appris à qui revenait le prix Nobel de littérature, donc 2017. Il a été décerné cette année à l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro, mais il y a 60 ans. Et effectivement, c'est ça mon actualité, c'est cet anniversaire. Il était remis à Albert Camus, qui avait alors prononcé ses discours de Suède, que les éditions Folio ont réédité pour l'occasion. Et pour moi, c'est l'occasion de me demander, mais que nous livrent les artistes dans ces discours de prix Nobel? Quelle vision de leur art et de l'art en général y développent-ils? Et si les écrivains, mieux que tout philosophe, y faisaient œuvre de théorie esthétique?
Lorsque les philosophes eux-mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient aux poètes de relever là le métaphysicien. Et c'est la poésie alors, non la philosophie, qui se révèle la vraie fille de l'étonnement.
Alors Géraldine, soit c'est Orson Welles qui fait un canular, soit c'est pas Camus ce qu'on vient d'entendre.
Alors non, effectivement, bonne oreille, ça n'est pas Camus, c'est St. John Peirce. C'était en 1960, il reçoit le prix Nobel de littérature et son message est clair, la littérature, la poésie en l'occurrence, a toute la légitimité, l'envergure, la force pour prendre la place de la philosophie. Et c'est donc l'enjeu de tous ces discours de prix Nobel, comprendre ce que les artistes disent de leur art pour comprendre ce qu'est l'art, pour comprendre ce vaste concept et impressionnant concept donc d'art. Et avec ce genre de prix, c'est l'occasion rêvée pour les écrivains de le faire, de prendre par eux-mêmes et sans les philosophes de la distance sur l'art, d'y jeter un regard surplombant et réflexif, bref, d'en proposer une théorie. Mais alors, quelle théorie et comment produire une esthétique? Est-ce forcément prendre la place de la philosophie, revêtir les atours du concept, adopter sa méthode et sa finalité, comme celle de l'étonnement? Produire une esthétique, est-ce forcément produire une théorie en bonne et due forme?
If a song moves you, that's all that's important. I don't have to know what a song means. I've written all kinds of things into my songs, and I'm not going to worry about it, what it all means. When Melville put all his Old Testament biblical references, scientific theories, Protestant doctrines, and all that knowledge of the sea and sailing ships and whales into one story, I don't think he would have worried about it either, what it all means.
Bon, c'est toujours pas Camus, mais je crois que c'est une voix qu'on est habitué à entendre chanter plutôt, Géraldine.
Exactement, décidément Adèle, quelle oreille. Bon, donc ce deuxième exemple donc, est un peu provocateur, évidemment, pour répondre à cette question de la théorie esthétique, comme le choix d'ailleurs de l'Académie suédoise qui a remis donc l'année dernière le prix Nobel de littérature à Bob Dylan. C'était un saut dans l'art, dans le temps et dans l'esprit. On est passé de 1960 à 2016, de St. John Peirce à Bob Dylan. On est passé d'un exposé en public, officiel, cérémonieux, où la littérature fait œuvre philosophique, à un récit enregistré et envoyé 6 mois après la remise des prix et dans lequel Bob Dylan revient donc sur ses premiers amours musicaux et romanesques et se demande ce qu'il peut y avoir de littéraire dans ses chansons. Et pourtant, l'esthétique n'est-elle pas là justement? N'est-elle pas dans ce que raconte Bob Dylan, dans tous ses mouvements de l'âme, dans tous ses ressentis, dans toute cette sensibilité déployée et touchée par les œuvres? C'est d'ailleurs bien le sens premier de l'esthétique, mais voilà, entre l'approche métaphysique d'un St. John Peirce et celle très physique de Bob Dylan, où situer l'art? Quelle idée globale s'en faire? Faut-il y renoncer? Faut-il renoncer quand on écoute un artiste à découvrir une esthétique en forme théorique, ce qu'on pourrait appeler autrement dit une philosophie de l'art?
Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle.
Vous avez reconnu cette fois-ci, Adèle?
Oui, je crois que c'est lui.
Voilà, c'est Albert Camus, c'est le troisième et dernier exemple pour ce journal, celui qui justifie donc toutes ces questions que je pose aujourd'hui, Albert Camus et ses deux très beaux discours de Suède. Alors que nous dit-il pour sa part? Que livrait-il dans ce discours et cette conférence qui date d'il y a 60 ans? Artiste, je cite, embarqué dans la galère de son temps, art, comme on l'a entendu, qui n'a rien d'une réjouissance solitaire, l'esthétique de Camus insiste sur les obligations de l'art. Il fait des œuvres des voix obligées par le tumulte de l'histoire, c'est-à-dire obligées, non pas à prendre un parti, mais à faire partie, à être pris au milieu de tous pour comprendre. Ni juge, ni indifférente, ni métaphysique, ni physique, telle est l'esthétique de Camus. Une esthétique tout court qui ne joue pas à la philosophie, ni à ne pas l'être du tout.
Merci beaucoup Géraldine pour cette exégèse des discours du prix Nobel et pour nous avoir parlé de Camus.
Et donc de ces discours de Suède, prix Nobel 57, qui sont réédités par les éditions Folio.
À lire et à écouter, on a aussi l'enregistrement. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.